BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business, émission spéciale aujourd'hui puisque nous nous retrouvons à Cannes où vient de se tenir la 65e édition des Lions, édition du renouveau alors que le festival avait essuyé beaucoup de critiques l'an dernier, notamment autour du nombre de prix. On va débriefer l'édition de cette année avec Sandrine Conseiller de Lacoste, Lacoste qui a reçu plusieurs prix ici cette année à Cannes. On sera également avec Alexandre Naressi d'Accenture Interactive dont le film JFK Unsilence a lui aussi été primé. Et puis avec Jean-François Sacco de Rosa Parks, on fera le point sur le rôle des jurys ici à Cannes. Mais tout de suite, retour sur le palmarès avec Marie Vallogne.
Les États-Unis, grands gagnants de cette 65e édition des Cannes Lions, avec 336 trophées remportés. Le film Tide, diffusé à l'occasion du Super Bowl, a d'ailleurs raflé un grand prix. Le Royaume-Uni et le Brésil sont aussi sur le podium et la France arrive en 4e position du classement avec 70 récompenses. Du côté des agences françaises les plus primées, on trouve Marcel, BETC Paris ou encore DDB Paris. Cette année, les campagnes axées sur des enjeux sociétaux se sont démarquées, comme par exemple, la publicité Le Marché Interdit de Carrefour, 14 lions raflés pour ce film sur l'importance de la biodiversité, un film que l'on doit à l'agence Marcel. Lacoste, accompagné par BETC, a aussi été primé pour sa collection Capsule, lancée en début d'année. Le crocodile sur les polos de la marque avait laissé place à 10 animaux en voie d'extinction. Et puis la campagne Share the Love, réalisée par TBW à Paris pour l'association AIDS, fait aussi partie du palmarès, avec une publicité partagée sur Twitter. L'édition 2018 aura aussi été marquée par des nouveautés, une durée raccourcie, 5 jours au lieu de 7, et 120 sous-catégories supprimées cette année. L'objectif, c'était bien sûr d'effacer les critiques sur les coûts du festival, mais aussi de revaloriser les récompenses.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. HebdoCom sur BFM Business.
Et je retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Alors pour débriefer cette semaine cannoise, nous sommes avec Sandrine Conseiller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing et branding global de Lacoste et vous avez passé, je crois, une très bonne semaine avec pas mal de récompenses pour deux campagnes, c'est ça en fait?
C'est ça. C'est vrai que la semaine fut très bonne pour nous, a été très bonne jusqu'à présent. Deux campagnes, donc Save Our Species et puis notre film de marque, Timeless.
Votre film de marque qui se passait dans un train, c'est ça?
C'est ça, oui. Un train, et surtout l'histoire du polo, en fait, de sa création, 1933 jusqu'à nos jours, à travers une histoire d'amour d'un couple qui se rencontre au travers du temps.
Et alors, Save Our Species, on en avait parlé, Frédéric, dans cette émission.
Oui, absolument. C'est là, pour le coup, autant le film, on va dire, est un très beau film classique, autant Save Our Species, c'est très original comme opération. Est-ce que vous pouvez nous juste rappeler en deux mots de quoi il s'agissait?
Oui, bah avec plaisir. C'est vrai que c'est une opération qui nous tient à cœur parce qu'elle est elle est un petit peu particulière et en même temps elle est très Lacoste. Il s'agissait en fait, le crocodile étant une icône pour l'ensemble d'entre nous, c'est la chance qu'on a chez Lacoste. Le crocodile a laissé sa place à des espèces en voie de disparition. Donc nous avons un partenariat avec en fait une association qui s'appelle l'IUCN, qui est l'association qui tous les ans édite la Red List des animaux en danger. Donc on a édité un certain nombre de polos avec ces espèces en danger, le nombre de polos édités correspondant au nombre d'espèces encore vivantes dans la nature. C'est le principe.
C'est une opération qui avait quand même des impacts sur votre chaîne de production. Ça a été facile à mettre en place? On a du mal à mesurer comment on réalise une opération comme ça.
En fait, c'était assez simple à mettre en place, j'ai envie de dire, puisque nous, chez Lacoste, nous avons aussi la chance d'avoir notre propre outil de production. Donc, c'est assez rare dans le textile aujourd'hui. On a nos usines. Donc, finalement, on a eu beaucoup de chance dans nos usines. Finalement, nos employés étaient très contents de pouvoir participer à cette opération. Après, c'est vrai qu'on a choisi d'enlever notre icône et de laisser la place à des espaces en danger. Donc, c'était un mouvement qui était assez bold, en fait, mais très Lacoste.
Mais justement, parce que c'est quand on s'appelle Lacoste et que finalement tout est fait autour du logo, je veux dire que c'est des vêtements
c'est
de qualité,
vrai.
Mais malgré tout, ce qui différencie au premier regard, c'est le crocodile. Il y a eu aucune hésitation sur le fait d'enlever le logo pour le remplacer par un autre?
Non,
vous avez accepté ça
vrai.
D'un coup?
Oui, c'est vrai qu'on a On a tout de suite dit oui, en fait. Ça a été, je crois que la justesse finalement de l'idée que l'agence BETC nous a présentée, nous a conquis tout de suite, hein. Et après on est parti sans trop réfléchir finalement. Ça n'est qu'après coup, quand l'opération est sortie, qu'on a eu beaucoup de commentaires sur le fait que c'était assez audacieux de travailler dans cette direction. Et c'est vrai qu'en pensée après, on s'est dit, c'était vrai que finalement on a été assez audacieux. Mais sur le coup, ça nous a paru assez naturel.
On a l'impression, on se disait ça avec Frédéric en regardant aussi le palmarès de Cannes, que les marques ont de plus en plus envie d'interpeller sur les causes. Est-ce que c'est le rôle des marques ?
Alors c'est vrai qu'on peut avoir un débat, hein, sur ce sujet. Là, j'ai envie de dire, je vais parler plus personnellement. Il me semble que oui. Je crois qu'aujourd'hui, les marques ont un tel impact dans la vie de tous les jours, dans la nôtre, hein, même nous en tant qu'utilisateurs de marques finalement. Je crois qu'il serait finalement dommage que les marques ne montrent pas le chemin. On a cette chance d'être entendu en tant que marque par un nombre très très important de gens finalement. Et donc je crois que oui, il faut le faire avec authenticité, c'est sûr. Mais de toute façon, dans un monde aussi fluide qu'aujourd'hui, quand on n'est pas authentique, ça se voit tout de suite, donc c'est l'avantage. Et je crois que oui, on a un rôle à jouer.
Et c'est donc un engagement de long terme alors pour la marque. Qu'est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y en a d'autres, des espèces en voie de disparition, donc qu'est-ce que ça veut dire que ça va revenir?
Oui. Avec la UCN, on a signé pour 3 ans. On est définitivement engagé dans du long terme avec eux. Et puis, de toute façon, dans l'histoire de Lacoste, il y a toujours eu un engagement, en fait. René avait un engagement sociétal, on a une fondation. Voilà. Pour moi, ça fait aussi partie, comme je vous le disais, du rôle des marques. Et donc, on aura d'autres engagements. Et celui-là, de toute façon, pour les 3 prochaines années, au moins.
Et d'autres films publicitaires aussi spectaculaires que celui qu'on vient de voir également en prévision?
Ah oui, bien sûr, toujours. Et chez Lacoste, il y a une tradition sur le craft de nos films. On a finalement assez peu de prises de parole publicitaires, mais quand on en a, on essaie de le faire bien.
C'est spectaculaire, oui.
Oui, oui.
Vous avez beaucoup parlé d'héritage ces derniers temps. Est-ce que vous allez continuer ou est-ce que vous avez finalement envie de conquérir une autre cible, de parler différemment de votre marque pour l'année qui vient?
Oui, c'est une question intéressante que vous posez et qu'on s'est posé aussi. C'est vrai que c'est important d'arriver à renouveler des prises de parole, il me semble, sur une marque qui est aussi patrimoniale que Lacoste, hein, puisqu'on fête nos 85 ans cette année. On a beaucoup parlé de l'héritage dans les 3 années qui viennent de s'écouler, parce que c'était important de reprendre cette place sur la création du polo, finalement, qu'on avait un peu oublié et qui est quand même un asset très très fort. On va évoluer vers sans doute une dimension de Lacoste qui est peut-être un peu moins connue, qui était la dimension créative de René Lacoste, hein. Il se définissait lui-même comme un inventeur. Il a inventé toute sa vie, de la machine à balles au club de golf, du polo bien sûr qu'on connaît. Et donc on va être un peu sur cette veine dans les années à venir.
Merci beaucoup Sandrine Conseiller. Je rappelle que vous êtes donc directrice marketing et branding global de Lacoste. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. L'édito.
Nous sommes maintenant avec Charlotte Brécard de la rédaction de CB News. Charlotte, de quoi on parle aujourd'hui ?
On va continuer à parler d'un sujet que vous venez d'évoquer, si vous voulez bien.
C'est-à-dire ?
Vous parlez avec Sandrine Conseiller de ces marques qui, comme Lacoste, s'emparent de sujets de société, qui défendent des causes qui sont assez militantes. Et j'avais envie d'en dire un petit peu plus.
Et exactement quoi ?
En fait, voilà. Il y a moins de lions à Cannes, mais il y en a quand même un nombre extravagant. Donc pour me faire un instantané de ce que l'industrie considère comme la crème de la publicité, je n'ai regardé que les grands prix. Et là, oh, surprise.
Mais bonne ou mauvaise ?
Une surprise, je vais vous laisser vous faire votre propre idée. En fait, sur la forme, on est clairement dans un festival de créativité, puisqu'on a vu des formes récompensées qui sont extrêmement riches et variées. On a vu des clips, on a vu des chansons, on a vu des musées, on a vu des films qui n'ont rien envie à la fiction. Mais sur le fond, il y a quand même une vraie ligne de fond que les marques ont en commun cette année. Elles sont toutes à l'unisson sur justement leur engagement auprès de la société, sur les valeurs qu'elles défendent. Et si vous voulez quelques exemples, je ne vais pas vous en proposer autant qu'il y a de grands prix, mais j'en ai trouvé qui sont assez éloquents. Vous prenez par exemple le grand prix, je regarde mes fiches, mobile.
Ouais.
On est sur un grand prix qui est complètement éthique. C'était une appli qui permettait aux Brésiliens de scanner les visages de leurs politiciens pour savoir si jamais ils avaient un passé en termes de corruption, un passif plutôt. Vous prenez le grand prix outdoor. Il a été remis à Comédie Centrale, la chaîne, qui avait monté un musée qui était dédié aux tweets de Donald Trump. Musée à vocation clairement satirique, hein, dans une entreprise de décrédibilisation du président. Donc on était sur une campagne politique, elle aussi, très engagée. Et si vous continuez comme ça, vous avez un grand prix PR qui a récompensé PR et design. Une initiative qui était portée par une ONG qui, elle, avait décidé de s'attaquer au problème des déchets plastiques dans les océans. Une superbe opération de communication qui avait pour objectif de faire reconnaître ces déchets plastiques comme un état par l'ONU, de sorte qu'ils soient assujettis aux mêmes traités environnementaux. Donc vraiment des campagnes qui sont décorrélées de tout aspect commercial. Et on peut continuer avec deux derniers exemples qui sont le Grand Prix Entertainment qui a récompensé un clip de Jay-Z qui pendant 7 minutes parle d'inclusion, grosso modo, de la difficulté de vivre, de l'homosexualité de sa mère. Et le Grand Prix Radio qui était un chant populaire qui a été détourné, les chants populaires de matchs de foot, détourné par une marque de bière en Afrique du Sud pour dénoncer les violences faites aux femmes par les maris qui étaient potentiellement un peu énervés par les défaites de leurs équipes. Donc vraiment, si on n'était pas sur le festival de la publicité ou de la créativité, on pourrait presque se demander si on n'est pas sur un festival de la RSE.
Et c'est nouveau ça, Charlotte.
Nouveau non, parce qu'on se rappelle de Dove, peut-être de la campagne de toutes les beautés qui était sur l'estime de soi déjà en 2004. Et il y a eu beaucoup d'initiatives. L'année dernière, c'était Fearless Girl qui a volé la vedette à toutes les campagnes proposées qui étaient sur le même sujet. Mais ça prend une ampleur qui est significative et qui, à mon sens, témoigne de deux choses. C'est un, l'attente de la société envers les marques répondent à ça, et deux, un postulat que partagent de nombreuses marques et qui a été résumé cette semaine à Cannes par une des directrices marketing de Mars et qui expliquait en un mot que pour elle, a brand without a purpose is just a product. Ça, c'est pour montrer mon anglais parfait après une semaine de
après une semaine de Cannes.
Et qui se résumerait en disant, une marque qui n'aurait pas de cause ne serait finalement qu'un produit.
Merci beaucoup Charlotte de Brica.
Merci à vous.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.
Et nous sommes maintenant en compagnie de Alexandre Narissi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du centre de recherche et développement d'Accenture Interactive. Et c'est vrai que vous aussi, vous avez passé une belle semaine, je crois, ici à Cannes, puisque votre agence Rothko a gagné 3 lions avec JFK Unsilenced. Mmh. Racontez-nous déjà, comment est née cette campagne très, très originale?
Alors, je pense que c'est vraiment un exemple parfait de l'utilisation de la technologie, en particulier technologie très avancée. Technologie d'intelligence artificielle et une combinaison de technologie et de créativité. Aujourd'hui, la barre est très très haute, donc ouais. L'objectif c'était vraiment de créer quelque chose qui surprenne, qui émeuve aussi, en recréant la voix de JFK, recréant en fait un discours qu'il n'a jamais pu prononcer, en proposant de l'écouter et en utilisant cette voix en fait pour créer une campagne qui sorte vraiment du commun.
Alors vous avez réussi à recréer cette voix. Comment est-ce que vous avez recréé cette voix?
Alors c'était un travail vraiment de fourmi. Ça consistait en fait à utiliser des discours existants et ensuite à travailler avec des technologies de pointe audio combinées avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir recréer la voix et recréer en fait les touches émotionnelles de la voix.
Et donc vous avez fait écouter ce discours recréé à un témoin de l'époque, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est en fait ce qui nous a aussi permis de valider quelque part qu'on se rapprochait de la réalité.
Oui, parce que faut bien comprendre que c'est le discours que JFK aurait dû prononcer le jour où il a été assassiné à Dallas. Oui, et c'est ce qui fait le côté émouvant, parce qu'après tout, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est de la super high-tech, mais en même temps, c'est
oui,
une histoire, c'est un vrai film.
On oublie complètement la technologie dans cette campagne.
Exactement, et en fait, c'est un petit peu notre approche. On va tendance à se forcer à pas tomber amoureux de la technologie, utiliser la technologie pour la technologie, mais plutôt partir d'une idée, partir de l'expérience, pour arriver avec la technologie à réaliser des choses qui n'étaient pas possibles il y a quelques années.
Et c'était une campagne qui a été faite pour qui?
Pour The Times.
Pour The Times. Et l'objectif, c'était?
Alors, l'objectif, c'était vraiment de commémorer, 55 ans plus tard, cet événement et de rendre hommage à JFK.
Alors, votre job, à part ça, à Sophie Antipolis, pas très loin d'ici, c'est de regarder l'évolution de la techno de 3 à 5 ans pour vos clients. Alors, qu'est-ce que vous leur voyez? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va être dans 5 ans?
Alors effectivement, on essaie d'être en pointe sur la technologie, sur des technologies comme blockchain, comme la réalité virtuelle, réalité augmentée, l'intelligence artificielle bien sûr. Mais on part souvent de l'observation de tendances comportementales, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer des tendances d'adoption ou de rejet quelquefois de certaines technologies. On va travailler aussi de façon viable, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des idées qui puissent être commercialisées. Et ensuite, on va combiner ça avec des technologies émergentes et on travaille à un horizon 3-5 ans, c'est-à-dire qu'on essaie de se projeter un petit peu dans le futur. C'est très difficile.
Oui, 3-5 ans, c'est long, très quoi. Vite, ouais.
Mais voilà, on essaie de tester les choses le plus vite possible avec des clients. On échoue quelquefois, on itère rapidement et on essaie d'amener de l'innovation dans à peu près toutes les industries en s'inspirant de ces nouveaux comportements consommateurs, patients, citoyens.
Vous auriez un exemple concret, par exemple, à quoi on doit s'attendre d'ici 3 à 5 ans, donc ?
Alors, quelque chose sur lequel on travaille, c'est vraiment, le comblement du fossé entre les promesses des marques et l'expérience réelle.
Ouais.
Donc, on travaille par exemple sur l'hyper-personnalisation et sur l'essayage virtuel. Donc, on essaie de coller au maximum aux produits, aux services.
Pour les vêtements, par exemple ?
Pour les vêtements. Donc,
Mais pas seulement.
Par exemple, alors, sur les vêtements, on travaille, c'est un point intéressant. On travaille en ce moment sur une solution qui permet de créer un double virtuel et de lui faire porter des vêtements. Donc, ça permet de vraiment de se voir en portant les vêtements et créer de la certitude par rapport au fait que le vêtement maille ou ne maille pas.
Ouais.
Donc c'est quelque chose qu'on est en train de piloter aujourd'hui en Europe. Et voilà, on teste vraiment en avance de phase en prenant des risques en termes de désirabilité bien sûr, mais on va être en preneur de risque par rapport à Accenture Interactive et on va accompagner des clients sur ces tout premiers projets.
Et pas seulement dans l'habillement, alors, si
j'ai
bien compris. Ah
oui, tout à fait. En fait, on peut transposer ça au travail qu'on a pu faire avec BMW pour créer un configurateur de voiture en réalité augmentée. On a récemment transformé l'expérience de point de vente chez Ferrari en créant un configurateur qui est excessivement immersif et qui se rapproche vraiment du rendu photoréaliste de la publicité. Donc on peut vraiment configurer et créer son propre film dans le point de vente. Ouais. Et puis on a travaillé récemment aussi pour Velux où là il s'agit de recréer sa pièce et de pouvoir observer la luminosité de la pièce en changeant le positionnement et la taille des fenêtres. Là encore, pour coller vraiment au plus à la réalité du service ou de l'expérience ou du produit une fois installé.
On a beaucoup parlé cette année, ces derniers mois, de la voix aussi, ouais. des objets connectés à qui on s'adresse en leur parlant. C'est une vraie tendance d'avenir, ça ?
Oui, je pense que c'est une tendance d'avenir. C'est d'autant plus vrai que on voit que il y a une adoption en fait, il y a un comportement d'adoption et une utilisation qui est de plus en plus galopante en fait de la voix comme un outil de commande de service.
Merci beaucoup Alexandre Maressi, je rappelle que vous êtes directeur du Centre de Recherche et Développement d'Accenture Interactive.
Merci à vous.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.
Notre dernier invité cette semaine, Frédéric, c'est Jean-François Sacco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et coprésident de Rosa Park. Vous étiez jury dans la catégorie outdoor. Comment on se prépare quand on est jury sur les lions à Cannes ?
Il n'y a pas de préparation particulière pour les lions à Cannes. L'idée, c'est de se tenir au courant du maximum des travaux les plus importants dans la catégorie et au-delà de la catégorie pour pouvoir être prêt à répondre à toutes les questions sur tous les grands favoris de Cannes.
Vous êtes fait une petite veille avant de venir ?
Oui, mais je crois que c'est important quand même de comprendre. Cannes, c'est quand même une grande foire aux idées. Et c'est des grandes rencontres entre campagnes. Et c'est quand même intéressant de savoir parmi tous les pays, et surtout des pays éloignés, de comprendre un petit peu les philosophies locales et les complexités de leur communication qui correspondent à chaque pays.
Il faut s'imprégner un peu de la culture à chaque fois.
Oui, je crois que
c'est important. Remettre dans son contexte, en fait.
Et je crois que c'est important, en tout cas, avant d'aller à Cannes, d'avoir quand même une vue globale un petit peu de cette création mondiale. Alors évidemment, on peut pas voir tous les cas, mais je crois que c'est important quand même de comprendre un peu tout ça.
Alors le jury, votre jury a déterminé deux grands prix.
Oui.
qui était pourquoi est-ce que vous en avez choisi deux et pas un seul?
En fait, ça tient aux règles de la catégorie. Je crois que c'est je crois qu'il y a ça aussi en cyber et en film. Dans notre catégorie outdoor, la catégorie elle touche à tellement de formes différentes de communication que le Cannes, la réglementation de Cannes a décidé d'attribuer deux prix, un prix pour des campagnes on va dire plutôt classiques et un prix pour des campagnes on va dire événementielles, digitales, qui prennent des formes beaucoup très différentes et qu'on ne peut pas comparer à des campagnes plus classiques.
Alors dans le classique, c'est McDonald's ouais. qui c'est une très belle et très originale campagne McDonald's qui a gagné, alors que dans le moins classique, c'est une campagne pour Comédie Centrale.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut appeler ça d'ailleurs? Alors la campagne, faut juste nous dire deux mots de ce que c'est que cette campagne et de savoir si c'est vraiment une campagne en fait.
Alors la question en fait que vous posez est assez intéressante parce que ça revient à définir qu'est-ce que c'est que l'outdoor. Et en fait, quand on juge la catégorie outdoor, on s'aperçoit que outdoor, c'est tout ce qui est outdoor.
Voilà.
Et en fait, ça
donc dans la rue, quoi.
Dans la rue, exactement. Et j'ai appris ça finalement en allant à ce festival et à ce jury. Ça prend des formes totalement différentes et parfois c'est très difficile à juger. On peut dire qu'une statue peut être outdoor, bien sûr une affiche outdoor, mais
la galerie. En l'occurrence, c'est un musée.
Oui, c'est
un musée détruit de Trump. Hein.
Alors, c'est un musée de chaque président à chaque fois a le droit à sa galerie. Et là, il est en hommage au tweet de Trump, qui est donc finalement une forme de satire et de critique du gouvernement américain. Comédie Centrale a choisi d'encadrer tous les tweets et d'en faire un musée. Donc, les tweets ratés, les tweets perdus, les tweets finalement tous les tweets de Trump.
Et dans quelle mesure c'est de la pub?
En fait, c'est une très bonne question aussi. Est-ce que c'est encore de la pub? En fait, c'est de la com. Et ça, pour le coup, c'est de la com. C'est de la vraie com parce que je crois que je pourrais pas citer les résultats de cette campagne, mais ils sont monstrueux au niveau US. Je vois le nombre de millions de gens qui ont suivi ça. Et donc, en ça, c'est de la com parce que finalement, cet événement a trusté un nombre de buzz, de d'écho autour qui est assez monstrueux.
On parlait beaucoup de retour à la créativité. Ça, c'est un exemple.
Ah ouais, je crois qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est que finalement c'est une forme d'affichage déjà que qu'on n'a pas l'habitude de voir, et il y a quand même une forme de satire je voulais pas faire un parallèle avec la France, avec les attentats, etc. Mais finalement, on rend hommage à cette satire, à ces gens qui prennent des risques et au nom de la liberté. Et c'était ça qui était intéressant cette catégorie.
Alors dans le jury, la France s'est pas mal distinguée. Hein. Il y a
oui.
eu six récompenses, oui. six prix pour les agences françaises, dont la vôtre.
Oui.
La France à ce niveau-là ou de manière générale est plutôt en bonne forme en ce moment.
Bah, en tout cas dans cette catégorie, je dirais oui. Je pense que si on voit toute l'histoire de la publicité française dans l'affiche, je pense qu'on a été les premiers à faire de l'affiche dans le monde. Si on revient Lupo, Cassandre, ces gens qui faisaient ces très belles affiches des années 30, les gens collectionnent dans le monde entier ces affiches. La France a été vraiment le pays de l'affichage au départ. Et je trouve que c'est pas un hasard si finalement en 2018, on retrouve la France bien placée dans cette catégorie, parce que je pense qu'elle a ça dans son ADN et elle le fait très bien.
Si vous aviez un regret sur cette édition, lequel serait-il ?
J'ai pas de regret particulier. Nous, on est très contents d'en sortir avec trois lions hein, sur nos plus grosses campagnes, donc Monoprix, Thalys et Skoda. Donc, ça, on est très contents. J'ai pas de regret. Je pense que c'est un très bon Cannes. Je pense qu'il y a encore trop de catégories. Je me perds encore, on se perd encore dans l'attribution des lions, des catégories, etc. Je pense qu'un Cannes encore plus réduit serait bien. Moi, je prêche pour la radicalité. Chez Rosa Parks, on est assez radicaux. Et un Cannes un peu plus réduit, plus essentiel, serait encore mieux. Mais j'ai trouvé que cette année, il y a du changement. Et je trouve ça intéressant. Donc, ça va dans la bonne direction.
Donc, l'année prochaine, on descend à 4 jours. Et chaque année, comme ça, on réduit un peu le format.
Je sais pas, Frédéric, si c'est le nombre de jours qui fera la différence. Je pense qu'il y a encore un peu trop de catégories. Je pense qu'on se perd encore trop dans la visibilité des prix. Mais ça va dans le bon sens. Ça a été réduit. Et je trouve qu'on Cannes reprend de la crédibilité. Bon, elle en avait, mais elle l'avait un peu perdue, je trouve, dans les années précédentes. Perdu.
Votre souhait pour 2019, alors?
pour Rosa Parks, encore plus de Lyon. En tout cas, qu'on continue à en avoir régulièrement. On les a depuis 2014, donc ça, on est content. Et pour le festival, peut-être un peu moins de catégories.
Merci beaucoup Jean-François Sacco. Je rappelle que vous êtes fondateur et co-président de l'agence Rosa Parks. Voilà, Hebdocom, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On sera d'ailleurs toujours ici à Cannes. On fera le bilan 2018 de l'année publicitaire. À très vite sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdocom sur BFM Business.